RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules, ça continue jusqu'à midi en direct, bien sûr, sur RMC la radio, RMC Story la télé. En attendant de retrouver Estelle Denis tout à l'heure, à partir de midi jusqu'à 15h. Et puis à 15h, ce sera Moscato, le super Moscato Show, en direct de Lyon, de la brasserie Le Rep. Si vous voulez aller saluer toute l'équipe de branquignoles et de bras cassés du super Moscato Show, on les a laissés sortir, croyez-moi, on prend même un risque sanitaire hein, en les laissant tourner en France.
Bah parce hein. qu'il peut faire
on prévient les préfectures à chaque fois.
Ils peuvent faire que le Tour de France des brasseries, hein, pas le Tour de France autrement, c'est pas possible. Oui.
Ils sont sûr, ils vont pas faire le Tour de France des médiathèques, ça.
Non, c'est clair.
Non, c'est alors non, ça c'est sûr. Ils sont sur la presqu'île de Lyon à la brasserie Le Rep. Donc à partir de 15h. Où on en est nous dans les GG, dans les grandes gueules? Ben c'est l'heure du à vous de choisir.
RMC les grandes gueules.
À vous de choisir.
À vous de choisir, on vous avait proposé deux sujets de discussion dans les GG. Un jeune Français sur 10 en difficulté de lecture, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce que c'est alarmant? Et puis ce que propose Clément Beaune, le ministre des Transports, de baisser de 10% les péages cet été. Alors nous on propose de baisser pour tout le monde. C'est ce sujet de discussion que vous avez choisi, donc on va en parler avec vous au 32-16. On va écouter le ministre des Transports qui était ce matin l'invité de nos confrères d'RTL.
L'an dernier, il y avait eu une réduction de 10% pour ceux qui bénéficient de chèques vacances. C'est près de 5 millions de Français, donc c'est un geste important. Je souhaite qu'on ait un geste au moins équivalent cette année pour les familles qui partent en vacances par la route. Je précise aussi que oui, les péages sont revalorisés chaque année. Ils ont été augmentés moins que l'inflation, même si je sais que 4,75%, vous l'avez rappelé, c'est pas rien, évidemment. C'est aussi pour ça que pour ceux qui, tout au long de l'année, utilisent la voiture, les abonnés notamment, ceux qui font plus de 10 allers-retours par mois, qui prennent la voiture pour aller au travail, on a aussi, et ça reste en vigueur évidemment, une réduction de 40% du prix du péage. Donc là, ça serait une mesure d'été qui s'ajouterait à cet effort.
Donc voilà, c'est pour cet
un geste
alors
commercial, ouais, une ristourne estivale, on peut l'appeler comme ça peut-être. Alors, en fait, il se base sur ce qui avait été mis en place l'année dernière. C'était déjà une réduction de 10%, mais c'est uniquement pour ceux qui bénéficiaient de chèques vacances. C'était quand même près de 5 millions de Français. Donc là, effectivement, on pourrait étendre ces 10% à tous ceux qui vont prendre l'autoroute cet été. Alors, c'est amusant parce que sa proposition fait suite à celle de François Ruffin, le député insoumis, qui lui avait demandé une opération péage gratuit cet été. Oui. Il avait dit, bah, rendons les péages gratuits. Alors, Clément Beaune dit, c'est absurde, il rejette cette idée.
Non,
la route, ça se finance. Il faut bien que les sociétés autoroutes aient de l'argent pour continuer à investir. Alors là aussi, l'autre argument, c'est un nouvel argument, il faut investir dans les bornes de recharge électrique. Ah, et donc il faut de l'argent. Ah oui, ils sont forts.
Bah, c'est
un métier. Voilà, il faut investir dans le covoiturage. Alors, je sais pas pourquoi il y a l'investissement dans le covoiturage.
Ouais, pas.
Voilà. Donc c'est de la démagogie. Alors est-ce que c'est de la démagogie de rendre les autoroutes gratuites l'été? Est-ce qu'il faut aller vers la proposition de Clément Beaune qui est plus raisonnable?
10% pour tous, qu'est-ce que vous en dites?
Je sais pas, 10%, je sais pas si tu prends l'autoroute, tu sais après ce que ça coûte, donc tu vas faire, mettons, un Paris-Arcachon, donc, par l'autoroute, ça va te coûter 35 balles. Donc, on va te faire quel autre? 3,50€. Tu peux même pas acheter une glace à ton monde parce que le permis est à 5 balles.
Ça coûte plus cher sur l'autoroute.
Sachant que les autoroutes, ça augmente en gros, en moyenne, 5% chaque année.
Ça, c'est vraiment de la com pure et simple, ça ne sert strictement à rien.
C'est de la com.
Mais oui, c'est de la com. Parce que on va te faire quel autre? 3,50€ sur ton budget vacances?
Bah, t'as les retours, ça fait déjà 7€.
D'accord, 7€, t'es parti avec tes deux gosses et ta femme.
Et sachant que ça a augmenté chaque année.
Ah, tu rigoles ou quoi?
Et sachant que
des choses. On reste une semaine de plus. Une semaine de plus.
Ça augmentera l'année prochaine aussi.
Voilà, donc ça augmente constamment. On te fait une petite baisse par rapport à une augmentation.
Ça s'appelle un geste commercial.
Oui, mais en fait, je pense que là, les Français, avec ce qui s'est passé avec la crise ukrainienne, notamment sur l'électricité, les prix de l'énergie, etc., ils ont envie de revenir à un certain nombre de prix administrés comme à la bonne époque. C'est-à-dire non mais je pense qu'il y a cette volonté là parce qu'on leur a dit vous allez voir, on leur a dit quoi sur l'énergie? Vous allez voir, on va libéraliser, les prix vont descendre, manque de pot, ils ont augmenté. On leur a dit sur la privatisation des autoroutes, vous en faites pas, tout est sous contrôle, les tarifs seront toujours régulés, tout ira bien, ça n'augmentera pas, ça augmente. Donc les gens ils se disent voilà, finalement ça augmente, ça va dans la poche
ça augmentait quand c'était public les autoroutes. Ça augmentait à peu près de la même façon.
Il y avait un contrôle, il y avait un contrôle des prix. C'est-à-dire que tu peux décider de les geler quand tu veux les geler.
L'État ne décidait jamais de les geler.
Oui, mais si c'est arrivé parfois.
Bonne raison les augmenter.
Non, mais c'est arrivé parfois et je pense que les gens ils veulent maintenant que la force publique ait un retour de contrôle sur les prix parce que auraient bien aimé qu'un certain nombre des prix soient.
Je suis pas d'accord avec ça. Parce que donc c'est au bon vouloir du politique. On a besoin de l'argent. Et moi, je pense que pour entretenir les autoroutes, on a d'ailleurs plutôt des autoroutes bien entretenues. C'est vrai que ça demande de l'argent. Oui. Et donc, il faut assumer sans démagogie en disant voilà, on a besoin de temps pour entretenir. Mais on peut pas en faire un outil politique.
L'argent,
moi, je trouve que Clément Beaune, il nous fait un outil politique. Donc ça veut dire que de temps en temps, on peut baisser 10%. Ah ben, de temps en temps, on peut faire ça. Donc ça veut dire que finalement, c'est pas très clair cet argent de l'autoroute. On sait pas à qui ça. Est-ce que c'est uniquement pour enrichir les actionnaires de Vinci?
En partie.
Quand tu fais un Paris-Nice en voiture, l'autoroute coûte en 2022 80 euros. Voilà. Donc tu fais l'aller-retour, ça te fait 160 balles.
T'auras 16 euros de ristourne.
Voilà. Si tu fais un Paris-Marseille, t'es à 61 euros. Donc tu fais 120 euros si tu fais l'aller-retour. Si tu fais le plus long, si tu fais le nord-sud, c'est Lille-Nice. Et t'es sur 106 euros. Là, ça te coûte.
Enfin, l'initiative.
Péage, péage. Non, mais je suis d'accord.
Et il y en a beaucoup qui le font l'été, hein.
Oui, bien sûr.
Avec le monospace, ils mettent les enfants, c'est moins cher que. Voilà.
Non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je veux dire, 10%, ça ressemble à rien et de toute façon, ça ne changera rien. L'autoroute est très chère. Elle est très chère pour les classes populaires. Elle est
souvent
très
chère
pour les classes moyennes, pour ceux qui n'ont pas les moyens. De toute façon, quand tu n'as pas de moyens, tout est cher. Tout te paraît cher. Un cornet glace, même à 5 euros, c'est cher. Tu as deux enfants, tu dois débourser 10 euros. Donc, la question, elle est même plus au prix. Est-ce que tu as les moyens de payer 45 ou 50 euros ou 80 euros pour descendre à Nice? Les gens vont te dire non. Donc en fait le problème on est presque dans un espèce de au pied du mur, c'est tu baisses de 10%, ça sert à rien. De toute façon, les gens payaient 200 balles d'autoroute aller-retour avec des enfants. Maintenant les gens
c'est pas démagogique. L'autoroute elle ne sera jamais gratuite. Oui, il y aura toujours quelqu'un pour payer. Ça s'entretient, une autoroute.
Mais après les gens par exemple, je prends avec qui on prend rarement l'autoroute, très peu. On considère que, à partir du moment où on part en vacances, que le temps de trajet fait partie de nos vacances. On prend pas l'autoroute jamais. C'est rare. C'est très rare.
Mais t'as personne derrière qui gueule. Quand est-ce qu'on arrive?
Non.
J'adore. J'ai envie de faire pipi.
Ça, c'est
et ma sœur, elle m'emmerde.
Les anciens temps où dès que ta mère, elle préparait l'arrière de la voiture.
Alain.
À l'époque, elle mettait un matelas. Il y avait même un matelas que tu pouvais mettre parce que tu n'avais pas de ceinture. Tu mettais ton matelas, tu dormais à l'arrière.
Voilà. Alain, je vais te dire pourquoi les enfants râlent pas, parce que eux aussi, tu leur expliques qu'on va pique-niquer, qu'on va s'arrêter là, qu'on va dormir là, et finalement, tu intègres, c'est un parti pris, parce que moi, j'adore traverser la France, j'adore m'arrêter, etc., mais tu fais pas d'économie, parce que de toute façon, tu t'arrêtes dans plein d'endroits, mais en tous les cas, l'argent que tu aurais dû donner à l'autoroute, eh ben, tu l'utilises en te promenant jusqu'à ta destination.
Je l'ai fait une fois quand j'étais jeune avec un copain, on avait 20 ans, je pense, 21 ans, on a fait Paris-Osgore uniquement par les départementales.
Oui, mais moi, j'ai déjà fait plein de fois des
centres. Uniquement par les départementales.
C'est long.
Parce qu'en fait, il avait pris la Fiat Uno de sa mère. Et il avait peur d'aller sur autoroute.
Ouais, parce que c'est
un vieux. Ouais, je me souviens. Faut comprendre. Et donc, il a dit, on va faire ça par des, tu avais le temps quand t'étais jeune. Donc, on a fait les départementales. Alors, c'est beau, hein, mais c'est
joli.
Long, hein.
Et regarde-moi, j'ai découvert la route des vins en passant de Saint-Jean-de-Luz pour aller remonter jusqu'à La Rochelle où on
alors là,
remonter.
C'était très long.
C'est génial. Non, mais voilà.
Après,
c'est
après,
super.
C'est
super. Ça, c'est les vacances de retraite, j'ai envie de dire.
Non, on l'a toujours fait.
Écoute,
c'est une histoire.
C'est une route qui fait recette.
C'est ça.
Ça te rappelle ton enfance?
Et je l'ai faite. Non, on le fait encore. Là, on part dans le sud dans pas longtemps, on prend pas l'autoroute. On vit encore comme ça.
Et même quand on prenait l'autoroute, c'était la France d'avant. Quoi.
Non, mais l'autoroute,
aujourd'hui, il y avait une espèce de flunch où on apprenait le plateau, on était heureux, c'était la fête. Quoi. C'est vrai que les vacances commençaient dans la voiture.
Mais oui, et là, tu te rends compte que tu peux pique-niquer, tu peux t'arrêter dans les villages. Tu peux
aller chez Courtepaille.
Donc en fait, à vous écouter tous, c'est n'attendons pas des pouvoirs publics qui nous fassent le
changeons
de
mode de vie.
Voilà. Le geste
changeons
de 10%,
de
15% pour les revenus modestes, etc.
Regarde, tu payes 160 euros d'autoroute, tu gardes les 160 euros, tu as tes enfants, tu vas pique-niquer, tu vas t'arrêter sur un lac, tu peux même camper si tu as envie, tu as des chambres d'hôtes dans les terres à 30 euros la nuit.
Dépensé 270 balles.
Non, 30 euros, la route des vins dans le Bordelais, dans des tout petits villages, tu as des chambres d'hôtes à 30-40 euros la nuit.
C'est quand même compliqué parce que là, tu pars en vacances, tu fais une réserve d'une semaine. Tu réserves du samedi au samedi.
Tu pars
samedi matin, s'il te faut 3 jours pour y aller, 3 jours pour revenir, ben réserve plus. Ça sert
avec
à rien.
Des enfants qui râlent.
Vous êtes trop compliqué.
Mais je pense que tout ça s'ajoute en fait à ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que là, on a une inflation élevé, oui, qu'on nous a promis sur le moyen, après sur des plus longs termes, qui allait redescendre finalement.
T'es obligé de changer de mode de vie. Pas.
Donc les gens ils disent bon, un peu descendu, et là dès que tu vois les tarifs augmenter, là tu les sens plus que d'habitude.
Mais c'est comme remplir le caddie avec la moitié de choses dont t'as pas besoin, donc tu vas au marché, il y a pas de caddie à remplir, et là tu vas à l'essentiel et tu manges beaucoup mieux.
Il y a un changement.
J'allais dire que comme nous n'avons pas de pouvoir nous d'agir politiquement sur les prix, le pouvoir d'achat, etc. On a aussi le pouvoir de décider de comment on modifie nos modes de vie quand on le peut, quand c'est possible, pour pouvoir justement vivre aussi bien, voire mieux, sans être pénalisé par les prix qui ont flambé.
On va en discuter avec Pierre, qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Il est plombier, Pierre. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour,
Pierre.
Quel temps, là, du côté de chez vous, dans les Pyrénées-Atlantiques, là, ce matin?
Il fait lourd. Dans la journée, il fait très chaud. Il y a une température entre 24 et 27 degrés. Et puis le soir, il y a des orages, il y a du tonnerre. Alors parfois ça pleut un peu, parfois pas, mais sinon
il y a de l'orage partout.
Ouais, alors... c'est des orages de chaleur souvent le soir comme ça, mais exactement, ça tombe pas. Ouais. Pierre, alors qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on fait un geste pour les péages, 10% ou pas, ou c'est du pipeau?
Ah, j'ai trouvé, j'écoute depuis un petit moment, j'ai trouvé certaines de vos grandes gueules un peu démagogiques, parce que ils reprennent un petit peu en cœur la proposition de Monsieur Ruffin qui dit gratuité des autoroutes. Mais gratuité des autoroutes, il y a deux problèmes à ça. Le problème numéro un, c'est qui paye? Comme l'autoroute appartient à une société privée, ça veut dire
personne n'a défendu cette thèse.
Hein. Oui, c'est ça.
Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut bien, à un moment donné, payer quand même l'entretien de l'autoroute.
Oui, mais la manière dont vous le présentez, 10% de réduction, ça va faire, pour moi qui ai pris l'autoroute récemment sur des grands trajets, ça m'aurait fait 4 euros de remise aller, 4 euros de remise retour. Mais il y a un moment, les autoroutes, pour moi qui est là, avant d'être à la retraite de la... d'être plombier, j'étais dans l'aéronautique. Je suis retraité depuis 60 ans. Quand je ne veux pas rester à rien faire, j'ai repris du boulot. Mais je veux dire, donc j'ai eu la chance, même encore récemment, de pas mal voyager. Les autoroutes en France sont dans 90% des cas, parce que je sais que vos grandes gueules vont dire oui, mais moi je connais un exemple. Il y a toujours des exemples. Les autoroutes chez nous sont bien entretenues.
Les arrêts sont bien entretenus.
Il y a un moment,
on a les meilleures autoroutes d'Europe.
Qui paye? Vous allez en Espagne, j'en viens moi, vous traversez l'Espagne, vous traversez le Portugal, vous allez en Belgique, c'est catastrophique. Même la pause de pipi, on a des déchets, il y a des baignoires, il y a des lavabos, il y a du
PQ. Non, on peut être fier de nos autoroutes. Après, ça.
Voilà, exactement. Donc il y a un moment qu'on paye les autoroutes, ça me semble normal. Et quand j'entends dire, oui, mais si on va à Arcachon et qu'on paye 35 euros d'autoroute et qu'on va économiser, c'est du foutage de gueule. Mais si on peut aller à Arcachon, on peut se payer l'autoroute. Si on veut pas se payer l'autoroute, on prend la nationale.
On est tous d'accord là-dessus.
C'est la tendance des grandes gueules. On voudrait que le français soit assisté, mais il y a un moment.
Ah non, mais c'est pas vrai ce que vous dites. Là, vous dites n'importe quoi. Moi, j'ai seulement dit qu'effectivement, c'était du foutage de gueule parce que c'est une opération de communication du ministre. C'est pas du tout le foutage de gueule. Dans le sens, effectivement, il y a peut-être des gens pour qui 4 euros, c'est 4 euros.
Mais moi, effectivement,
je prends l'autoroute parce que j'en ai les moyens. Si j'en ai pas les moyens, je le prendrai pas.
Non, mais Pierre, je suis d'accord avec ce que vous dites et on a jamais défendu ça. Mais quand même, faut quand même dire les choses. C'est-à-dire que quand ça a été privatisé, au départ, on nous a dit, les tarifs vont être garantis par l'État, ça ne va pas augmenter. Ça a augmenté. Les actionnaires ont récupéré des milliards dans les 5 premières années. Le kilomètre d'autoroute a augmenté considérablement. Et donc à un moment, la vraie question est là, c'est que les gens ils ont l'impression en fait aujourd'hui. Attends Pierre, je finis juste mon raisonnement après je vous laisse parler. Excusez-moi. Le seul truc c'est que les gens ils ont l'impression quand ils payent maintenant et qu'ils voient les augmentations de tarifs d'engraisser une partie des gens et c'est ça qui les dérange. En fait c'est ça qui les dérange.
Oui, c'est pas de payer l'entretien des autoroutes dont on a besoin, mais c'est vraiment pas ça.
Les autoroutes qui ont été
payées, les dividendes des actionnaires.
Si vous voulez bien deux choses. La première chose, si moi je suis un actionnaire, je prends des risques et que j'investis dans l'argent dans les autoroutes, je deviens actionnaire des autoroutes. Je le fais pour que ça me rapporte de l'argent. N'importe quelle personne, même le moindre des smicards, le moindre des machins, il serait dans le cas de ses actionnaires, il serait la même chose. Point numéro 2. Si vous avez des enfants, vous dites à votre fils, moi je te garantis, je vais te donner 2,50 €. Allez, je vais te donner 10 euros d'argent de poche tous les mois. Merde, les choix augmentent. Aujourd'hui, je vais pas te donner 10 euros, je vais t'en donner que 8. Ça s'appelle bien de la gestion. Donc à un moment, vous pouvez pas. Moi, je veux bien. On dit oui, l'État a dit que ça serait garanti, mais vous savez très bien que dans le temps, avec les augmentations, avec le coût, avec les investissements nécessaires, avec les règles de sécurité obligatoires sur les autoroutes ou les routes en général, vous comprenez bien que il y a.
C'est clair que tous ces coûts ont permis quand même dans les 5 premières années au bénéfice d'augmenter de 30%.
Vous voulez quand même pas
le bénéfice des bénéfices des autoroutes augmenter de 30%. Donc c'est pas qu'une question d'augmentation
des
coûts.
On pleure sur Vinci, sur. Compagnie, il y a un moment où vous êtes gentil, mais quand même.
Merci Pierre. On va jeter un petit coup d'œil à la consultation là qu'on a lancée pendant un quart d'heure. Baisse de 10% des péages cet été pour tout le monde. Bonne idée, bien sûr.
C'est toujours bon à prendre.
Mais bonne idée, 80%.
Voulez-vous de l'augmentation? Non.
Tiens, tu m'étonnes. Allez, dans un instant, on va continuer de parler pognon. On va continuer de parler gros sous. On va parler de nos salaires. Un salarié français sur deux se sent mal payé, surtout chez les femmes. Alors, est-ce que les Français ont raison de se plaindre des salaires? Oui pour Thomas et Olivier, non pour Zora et Johnny. Et vous venez arbitrer ce match au 32-16.
RMC,
9h30,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules en direct comme tous les jours avec vous, la radio RMC, la télé, c'est RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. N'oubliez pas la semaine prochaine, tout GG dans les grandes gueules. On a les vedettes, les stars d'RMC qui vont venir pendant une heure discuter, s'asseoir à la table des GG. Lundi, Apolline de Malherbe, mardi, Vincent Moscato, mercredi, Jérôme Rotten, jeudi, Estelle Denis. Et vendredi, Daniel Riolo.
Ces stars vont participer au GG 7 et match.
C'est une belle idée. Hein.
Donc là, je peux vous dire que ça va être marrant d'entendre Apolline, Vincent, Jérôme, Estelle, Daniel débattre de l'actualité avec les grandes gueules. Et on commence avec Apolline de Malherbe qui sera avec nous dès lundi.
Alors on va avoir des moments assez inédits parce que Jérôme Rotten avec le syndicaliste de Sudrail, Bruno Poncet, mais qui est fan de foot, fan du PSG, mais c'est vrai. Kauter Ben Mohamed, la Marseillaise, et Mehdi Ghezzar.
Eh ben, bon courage.
Et ça va être des bons moments.
Et la rencontre entre Vincent Moscato mardi et Sarah Salman, ça va être quelque chose aussi.
Donc voilà, à partir de lundi, tous GG, on commencera avec Apolline de Malherbe, Charles Consigny, Joël Dagosséry et Bruno Pomard sera lundi prochain. Bon, en attendant, revenons à nos moutons, à notre quotidien, à ce que l'on fait maintenant, là, à 11h25 dans les GG, dans les grandes gueules. On fait quoi? On fait le GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
Un salarié français sur deux se sent mal payé, surtout chez les femmes. C'est une comparaison sur 17 pays. Alors seulement les Canadiens et les Anglais sont plus mécontents que les Français. 61% des femmes françaises s'estiment sous-payées, alors que c'est seulement 49% des hommes chez les 18-24 ans en tout début de carrière. On trouve qu'un tiers des salariés a s'estimé mal payé. Alors est-ce que effectivement les Français ont raison de se plaindre, ont raison de râler, de dire qu'ils sont mal payé, sous-payé? Une équipe dit oui, Thomas Olivier. Une équipe dit non, Johnny et Zora. Mon cher Johnny, c'est un plaisir que de te donner ces 60 secondes. On y va.
Eh bien, écoute, moi, mal payé, je veux bien, mais mal payé, d'abord, c'est quoi? Mal payé, c'est par rapport à qui? Et mal payé, par rapport à quel travail? Déjà, c'est trois questions qu'il faut se poser. Ensuite, je pense qu'il faut faire attention, parce que les Français, ils regardent toujours leur salaire, mais ils regardent pas leurs conditions de vie. C'est-à-dire, tu peux aller aux États-Unis, tu vas être beaucoup mieux payé. Par contre, ton loyer va pas être le même, t'as pas de couverture sociale, t'as pas de tout ça.
On appelle le salaire différé.
Voilà. Donc, il y a un moment où il faut aussi reposer les pieds sur terre et regarder ta condition de vie générale et ton cadre de vie. Et donc, je pense que si on ouvre un petit peu les yeux en France et qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, ne serait-ce qu'en Europe, je suis pas persuadé que le français est vraiment mal, soit vraiment mal payé par rapport à un portugais, un espagnol, un italien, ou, voilà. Donc, on peut toujours trouver mieux que nous. Ça, y a pas de problème. On peut toujours voir ce qui se passe au-dessus. Mais on est aussi dans un monde où une économie mondiale, les entreprises, alors peut-être, effectivement, je reparlais des distributions des richesses en début d'émission. Il y a un gros effort à faire au niveau de ces redistributions dans les très grosses entreprises. Après, dans les PME, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de patrons de PME qui sont payés moins cher que leurs meilleurs salariés dans l'entreprise. Donc voilà. Et je pense qu'on n'est pas si mal payé que ça en France.
Réponse de Thomas.
Je suis d'accord avec une grosse partie de ce qu'a dit Johnny. Je pensais pas qu'il allait attaquer comme ça, tu vois. Là, il m'a pris le, hop là, il a fait exprès, je pense, de faire ça pour me couper.
Il a été bon, il a été déstabilisé.
Il a raison que dans les salaires aujourd'hui en France, il y a le brut, le net, et qu'effectivement, il y a une grosse partie du brut qui est du salaire différé. Voilà. Et donc, qui explique une protection sociale quand on est au chômage, etc., l'école et ainsi de suite. Donc, oui, il a raison. Mais après, il est vrai que dans tous les pays, et là vous regardez, le Royaume-Uni, un pays libéral qui n'a pas le même modèle social, le Canada, et même je crois que largement dans l'Europe, ça a été mis en avant par Draghi quand il était président de la Commission européenne. En réalité, il y a eu un problème de sur les salaires ces 30 dernières années. C'est-à-dire que les salaires n'ont pas augmenté aussi vite que la richesse qui a été créée. Et donc, il y a eu un problème vraiment de partage de la richesse créée. Et ça, ça crée un sentiment chez beaucoup de gens. Alors, certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans cette société-là et ont vu leur salaire plutôt qui ont bien augmenté. Et puis d'autres, il y a eu des problèmes. Alors là, on parle des femmes, mais on parle aussi des professeurs. La valorisation de l'heure de TD. Aujourd'hui, il y a des chargés de TD qui sont en grève à la Sorbonne. L'heure de TD, de cours à l'université en études supérieures n'a pas été revalorisée depuis 25 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est normal qu'ils se plaignent de leur salaire à un moment. Donc, moi, je comprends que des secteurs ont été abandonnés. On l'a bien vu avec aussi les infirmières. On l'a bien vu avec tous les premiers de corvée dont on a parlé pendant le Covid. Leurs salaires n'ont pas été augmentés depuis un certain nombre de temps et on est là largement en dessous de la moyenne même européenne. Donc il y a des salaires, il y a des secteurs qui doivent être rattrapés. Oui.
On peut comprendre que sur certains métiers ça peut se plaindre de leur salaire, mais j'allais dire tous ces gens qui gagnent même jusqu'à 1500, 1800, 2000 euros par mois, même si on mettait le SMIC à 2000 euros par mois. Quand les gens gagnent 2000 euros par mois et que le coût de la vie est ce qu'il est aujourd'hui, que le logement coûte aussi cher, que l'accès à la propriété est devenu inaccessible pour les trois quarts des gens, on peut augmenter les salaires autant qu'on veut. Aujourd'hui, se loger, se déplacer, se nourrir, ça prend carrément tout ton salaire. C'est-à-dire que si tu as un SMIC, ben tu vas pas beaucoup manger. Si t'as un peu plus, tu vas peut-être manger un peu mieux, mais tu ne feras rien de plus. C'est-à-dire que ta vie, elle est réduite au minimum vital, c'est-à-dire travailler, te déplacer, te nourrir. Donc, bien sûr que les gens sont mal payés au regard des besoins qu'ils ont pour avoir une vie décente et normale. L'accès aujourd'hui au logement, qui est un poste à peu près jusqu'à 30-40% parfois de ton salaire, oui, si t'as de la chance, si t'es pas dans une grande ville, oui, si t'es pas dans des loyers de dingue. Donc, mal payé, oui, et comme dit Johnny, mal payé. Pour qui? Pourquoi? Pour quel boulot? C'est ça qu'il faut regarder. Une infirmière qui gagne 1200 euros, c'est pas normal. Un prof qui gagne 1600 euros, c'est pas normal du tout. Aujourd'hui, il y a la fonction publique, elle est désertée. Hier, il y avait un reportage, je sais plus sur quelle chaîne, les crèches, il y a des crèches où on envoie des mails aux gens, on dit, ben voilà, aujourd'hui, on n'aura pas de péricultrice, donc vous essayez de voir si vous pouvez garder vos enfants. Il n'y a jamais eu autant de souffrance. C'est-à-dire que les gens veulent même plus aller travailler dans la fonction publique parce qu'ils se disent à 1002, 1003, 1004, ma vie, elle ne va pas s'améliorer.
Oui, mais il y a quand même un problème en France, c'est le travail ne paye pas assez.
Mais bien sûr, mais bien sûr.
Tout repose sur ceux qui travaillent. Tout. La fiscalité repose sur notre système social, notre état-providence.
Un célibataire au SMIC, il paye des impôts.
Repose sur ceux qui travaillent. Il faut quand même voir le problème. Et donc, effectivement, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas bien payés. Alors, en plus, il y a un écart entre les hommes et les femmes. C'est intéressant de voir d'ailleurs que les femmes s'estiment sous-payées. Elles sont plus nombreuses, d'ailleurs, 61%. On sait très bien qu'elles sont pénalisées parce que le fait qu'elles vont faire des enfants, parce que souvent quand l'enfant est malade, c'est elle qui va se sacrifier pour prendre une demi-journée, etc. Là, il y a aussi
c'est vrai dans les postes plus, parce que dans les entreprises partout, je vais dire, on fait le même travail. Moi, je veux dire, chez moi, que ce soit les femmes et les hommes, tout le monde est sur la même base.
Non, mais l'évolution de carrière n'est pas la même, sincèrement.
Dans les PME, ça n'existe pas.
Il y a des plafonds de verre encore pour les femmes, des évolutions de carrière plus compliquées.
Dans les grosses boîtes, pas dans les PME.
Bah oui, mais enfin, en tout cas, c'est le ressenti des femmes, à 61%. Et les hommes 49%, donc ça montre bien quand même qu'il y a une inégalité.
Non, mais je pense
et toi, tu es d'accord avec ça? Tu dis le travail ne paye pas assez en France.
Non, mais le travail ne paye pas assez, mais le problème est qu'aujourd'hui, tu peux augmenter les salaires, ça ne donnera pas de pouvoir d'achat.
Mais voilà.
Parce que si moi, tu augmentes le salaire de mes salariés, il se fait quoi? J'augmente les produits de mes produits, je vais vendre.
Parce qu'on est dans une période d'inflation.
Mais non, parce que tu n'as pas le choix.
Il y a toujours une bonne raison pour ne pas augmenter.
Les PME n'ont pas des marges de manœuvre qui permettent de monter la masse salariale de 15%.
Non, mais on nous tenait le discours. Quand il n'y avait pas l'inflation, c'est-à-dire il y a 3 ans, on nous disait non, il faut quand même une modération salariale. Vous comprenez, parce que la croissance n'est pas
terrible.
Mais
l'impôt sur les sociétés a baissé les charges, 33%, ça a baissé.
Qu'est-ce qu'on a fait cette année? On a augmenté le prix de nos produits de 10%. Oui. Parce qu'il fallait augmenter les salaires, parce que tout augmentait. Oui. Donc il y a un moment, tu répercutes tout. Donc on peut tous gagner 5000 balles par mois demain. Si la baguette vaut 10 euros, ça ne changera rien.
Mais Johnny, la question des salaires, elle s'est posée avant l'inflation.
Mais moi, je pense
qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu toutes les charges fixes augmenter.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire l'immobilier, alors là, tu l'as dit, Et ça, c'est un vrai problème.
C'est ça le problème. C'est pas le problème des salaires en France. Oui, c'est le problème qu'on a
mais
donné.
Mais c'est pire. Ça veut dire que les taux, tout est relatif. C'est-à-dire que là, la question, c'est les Français ont-ils raison de se plaindre? Ils sentent que leur salaire, ils n'ont pas le même pouvoir d'achat. Donc, ils se plaignent de leur salaire. Après, bien sûr que si demain tout l'immobilier commençait à baisser, les charges contraintes commençaient à baisser, etc., tu pourrais vivre avec un salaire moindre.
Avant, les classes populaires au SMIC devenaient propriétaires.
C'est-à-dire qu'ils avaient un
salaire, ils vivaient bien.
C'est à ça qu'il faut travailler. Il n'est pas possible que quelqu'un qui achète un appartement, 500 000 euros il y a quelques années, leur vendre 1 million d'aujourd'hui. Ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister.
Ouais.
Donc il y a un moment, c'est là-dessus qu'il faut bosser.
Ça, c'est la spéculation.
Mais c'est ça qui tue tout. L'alimentaire, qu'est-ce qui fait que tout augmente sans arrêt? C'est la spéculation. Le coût de cette guerre en Ukraine, on a l'impression que tout s'était arrêté. Je vais dire un truc, mais en Ukraine, il y a toujours eu du blé, il y a toujours eu ceci, cela. Toutes les excuses sont bonnes pour que les spéculateurs bloquent tous les produits, fasse monter les cours, et après on balance tout sur le marché. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut arrêter. Il suffirait.
Bruno Le Maire a dit qu'il donnerait bientôt les noms, hein. Bientôt les noms de ses partenaires. Ça fait trois mois qu'il va donner les noms.
Il suffirait, je vais te dire un truc, que t'as une loi qui dise, par exemple, qu'il est interdit de spéculer.
Sa main ne tremblera pas.
Il est interdit de spéculer sur les produits alimentaires.
C'est vrai.
Mais déjà, on arrêterait de faire crever la moitié de la planète de faim. Donc c'est quand même des choses très simples, c'est des volontés politiques, personne ne l'a.
Je suis d'accord avec Johnny, putain, il a bien pris le truc.
Attendez, le match n'est pas terminé.
Il est plié.
Salda entre dans le match. Bonjour Salda.
Oui, bonjour.
Saïda, excusez-moi.
Saïda
de Côte d'Or. Alors, est-ce que oui ou non, on a raison de se plaindre des salaires?
Ah bah oui, complètement. Complètement. Parce que à la rigueur, moi je parle pas des salaires de haut cadre, moi je parle de salaires de petits ouvriers comme moi.
Mais oui,
Je suis aide à domicile. Je passe mon temps sur les routes en payant l'essence de ma poche. Je fais plus de 150 heures sur 24 heures. Je suis payée 8 euros net. Et à la fin du mois, j'ai
8 euros net.
Voilà.
Combien il vous reste à la fin du mois? 1000 euros.
C'est 11 euros le SMIC. Et à la fin du mois, quand je fais le bon mois et beaucoup d'heures, j'ai 1022 euros.
Est-ce
que c'est normal
ça,
que son
emballe? Non, mais ça, je suis d'accord avec Saïda. La question qu'il faut se poser, je veux dire, ma soeur a fait ce travail-là toute sa vie. Donc, quelque part, je sais ce que c'est ces salaires-là. Le problème, c'est que si tu veux payer plus cher, Saïda, qui paye? La personne âgée que tu vas aider? Est-ce qu'elle en a les moyens? Mais non, parce qu'elle est
retraitée. Mais non, c'est pas ça la question.
Les gens qui ont des aides à domicile, c'est pas des gens qui ont des grosses retraites parce qu'ils ont du travail.
Allez-y, Saïda, allez-y.
Non, excusez-moi, la personne âgée paye 38 euros la prestation. Et nous, on est payé 11,25 euros.
D'accord, mais Saïda, comment se fait-il
que... Et tout le reste va où alors,
Saïda? Ah non, mais il y a une question importante.
Non, Saïda.
Non, mais comment se fait-il que on vous prenne pas en charge vos frais annexes? C'est pas normal.
Eh ben, c'est comme ça.
C'est pas normal. Tu vas travailler, tu payes tes déplacements, tu payes ton essence, etc. Déjà, il y a un problème.
Et qui prend la différence?
Et vous, sans indiscrétion, c'est quoi l'entreprise pour laquelle vous travaillez? C'est une boîte privée ou c'est une boîte...
Oui, c'est une boîte privée.
Ah ouais, mais d'accord,
qui est très bien connue, qui travaille dans toute la France et qui est classée apparemment très bien. Moi, quand j'ai eu le placement, j'ai été sidérée. Et là, comme je disais à votre collègue, j'ai perdu une cliente qui est décédée. Ben, j'ai eu 702,28 € avec un enfant à charge. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 702,28 €?
On est d'accord.
En fait, la prestation coûte 38, mais vous êtes payé 11, quoi, c'est ça.
11, et il reste 8 parce qu'elle paye son transport. Elle paye tout.
11,50 €.
Non, mais là, je sais pas où elle travaille, mais
11,50 €.
Chez qui travaillez-vous, Saïda?
Je préfère pas le dire.
Oui, bah oui.
On peut comprendre.
Donc voilà, on en revient.
On ne répétera pas.
Non, on en revient à ce que j'ai dit, voilà. Il y a une richesse qui est créée, cette richesse, elle est mal partagée.
Il n'y a pas de partage.
Et les gens le savent. Elle est mal partagée, en plus, pour des métiers utiles.
Oui, c'est ça.
Donc, infirmière, professeur, aide à domicile, dont on a besoin. Et puis, pour d'autres, là, ça peut s'envoler. Je vais pas taper sur mes traders préférés. Mais eux, ils ont vu leur chiffre augmenter très fortement. L'utilité, elle reste
Saïda,
à démontrer.
Merci de nous avoir livré votre témoignage, oui. Saïda. On va regarder. Les Français ont-ils raison de se plaindre des salaires? Oui ou non. On envoie les copains. Allez hop, on voit où on en est. Oui, 82%.
Johnny a été bon.
Johnny, je te jure que si t'arrives à retourner ce match, c'est l'exploit du siècle.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Thomas Porcher, Zora Vitan et Johnny Blanc. On discute des salaires de cette étude. Est-ce que aujourd'hui vous considérez vraiment qu'on gagne, on gagne pas bien sa vie en France, faut le dire comme ça, puisque un Français sur deux estime qu'aujourd'hui il est sous-payé. C'est Johan qui veut en parler avec nous. Bonjour Johan.
Bonjour.
Bonjour, consultant en informatique. Vous nous appelez d'où ?
Je suis à côté de Troyes, dans l'Aube.
D'accord, mon cher Johan. Alors, est-ce que vous faites partie de ces Français qui râlent ?
En Champagne.
Exactement, enfin, ouais.
Pas très loin.
Non. Ouais. Alors, moi, je suis venu soutenir un petit peu Zora et Johnny, essayer de renverser la vapeur. Non, je pense que, en fait, on se trompe de problème. En fait, pour moi, on n'a pas de raison de se plaindre vraiment sur le salaire. C'est pas le salaire le problème. Johnny l'a expliqué tout à l'heure. C'est le souci, ça va être les charges et finalement le reste à vivre. On a niveau aujourd'hui qui est d'imposition, de prélèvement, c'est beaucoup trop fort. Ouais. En fait, si vous prenez un salaire brut, très honnêtement, des salaires, ils sont pas mauvais. C'est après, c'est une fois qu'on retranche toutes les charges, qu'on retranche tous les prélèvements, qu'on voit le niveau d'augmentation des tarifs, etc. C'est là qu'il y a un problème qui se pose. Donc en réalité, le salaire, si on prend ce prisme-là, n'est pas bon.
C'est
d'ailleurs. Et voilà, le problème, il est là. D'ailleurs, je voudrais aussi rappeler une petite chose que tout à l'heure, j'entendais Thomas Porcher qui parlait beaucoup aussi du CAC 40. Il y a juste un point, moi je travaille beaucoup avec des grands comptes, hein, très clairement, et je peux vous dire que les salariés de ces groupes-là, ils se plaignent pas. Hein. Ils ont, en termes de salaire, et moi je les côtoie tous les jours, je peux vous dire qu'ils sont, ils vont pas se plaindre. Hein. Ils sont très très bien lotis à ce niveau-là, il y a pas de souci. Le problème, c'est encore une fois, moi mon point de vue c'est celui-là, c'est que si un jour par exemple on donnait le salaire brut, alors je sais que ça sera jamais, mais si vous donnez le salaire brut aux personnes et que vous les laissez payer comme tout indépendant ou autre, si vous laissez payer des charges, alors là vous aurez plus le même discours. Là ça va être très différent. Hein.
Bah oui, parce que si t'as plus de sécu, l'école. Voilà. Et toutes les infrastructures.
Là, c'est le système américain. Là.
Bah voilà.
Et le système américain. Je veux dire, moi, mon ancienne copine que vous connaissez tous, et qui vit à Los Angeles, elle a mis un jour elle a mis deux jours sa fille à la crèche, deux jours, hein, 1 600 € par mois. 1 600 $ par mois.
On est bien d'accord.
Et l'accouchement, c'est 20 000 $.
Exactement. Donc là, c'est nous, ça. Moi, je veux dire, il y a des gens qui payent pas leur crèche, il y a des gens
ils sont beaucoup mieux payés.
Voilà, personne n'est
mieux payé.
Allez-y, Johan. Oui, pardon, excusez-moi.
Thomas, non, il n'y a pas de souci. Simplement, on dit presque la même chose. C'est-à-dire que ce que je veux montrer par là, c'est que si on continue d'exposer la notion de salaire, en fait, les gens parlent du salaire net, ce qui est logique puisque c'est ce qui vous reste à la fin du mois. Mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est que c'est exactement ce que vous venez de décrire. C'est pas le salaire le problème.
Oui, c'est ce qui te reste à vivre.
Exactement, c'est le reste à vivre. Et qu'est-ce qui se passe entre guillemets à ce niveau-là ? C'est ça qu'il faut réfléchir à mon avis.
Il y a un truc qui est très simple, Johan, c'est qu'en fin de compte, on est dans un pays où on fait fonctionner la solidarité sans arrêt. C'est-à-dire que rappelez-vous, il y a une époque où les commerçants refusaient de payer le RSI, et donc. Ils s'étaient assurés, on avait trouvé des boîtes anglaises, par exemple, qui nous assuraient mieux que le RSI pour 10 fois moins cher. Par contre, il n'y a aucune solidarité. Voilà. Tu payes pour ta pomme, le voisin à côté peut crever, c'est pas ton problème. Et voilà. Donc avant, c'est un choix de société. Donc le problème des Français, c'est qu'ils veulent tout. Ils veulent conserver leur modèle social qui leur convient parfaitement, mais en contrepartie, ils voudraient gagner aussi cher que ceux qu'on n'a pas. Il y a un moment, c'est pas possible. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Tu as raison. On est un peu schizophrène. On veut tout et son contraire. Néanmoins, cette différence entre le brut et le net, ça fait mal à tous les salariés.
Bien sûr.
Tous les mois,
mais
on se dit.
Oui,
mais derrière, quand on nous explique que l'hôpital va mourir, que on a des discours catastrophistes sur les services publics tous les jours.
C'est mal géré.
Donc,
juste un point, Olivier, par rapport à rebondir sur ce que tu dis. Du coup, est-ce que la question, à un moment donné, c'est pas aussi de se poser la notion d'efficience? Moi, mon point est aussi là, c'est que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une manne financière qui, à mon avis, n'est pas négligeable. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait aussi. C'est-à-dire que les services qui déclinent, peut-être qu'ils n'ont pas de raison à terme de décliner si on était un peu plus efficace aussi.
Enfin, la vraie question, c'est la gestion de l'argent public.
Exactement.
Ce qui n'est pas possible, c'est qu'en fin de compte, en général, on le voit bien au niveau des entreprises, quand on mutualise des services, c'est pour faire de l'économie et gagner en efficacité. Au niveau de l'État, c'est tout l'inverse. On mutualise tout, ça nous coûte de plus en plus cher, puis c'est pas efficace.
Merci
Johan d'avoir été dans les
Merci Johan.
Salut Johan, bonne journée.
Intéressant parce que là, Merci Joanne. Ce qu'a dit Joanne, il a raison. C'est-à-dire que on l'a dit au début, tu l'as très bien rappelé au début, et tu l'as dit aussi, c'est que dans le salaire que l'on touche, il y a un salaire différé.
Oui, ben oui.
Il y a une protection sociale. Oui, et moi, je dis toujours quand on commence à nous dire, oui, regarde, nous avons le plus gros taux de cotisation sur les salaires. Moi, je dis, on doit toujours, si on veut une vraie comparaison, regarder les cotisations et la protection sociale qui va avec. Et c'est important de voir ça parce que quand tu sors ta carte vitale, tu perds rien et c'est grâce à tes cotisations. Donc là, c'est très important de le rappeler. Faut le dire ça. Mais après, il faut voir aussi une chose. Et là, je rejoins, c'est tout cet argent qui va que l'on paye et qui va après dans la dépense publique, on montre qu'à l'autre bout de la chaîne, les gens sont pas satisfaits de leur service public.
Oui, mais
je suis pas sûr que ce soit dû à encore comment est géré cet argent, puisque toutes les mesures en fait qui ont visé à augmenter la compétitivité de ces services-là, le new management public qui a été appliqué à l'hôpital, la tarification à l'acte, compter ce que font les policiers, et le nombre d'affaires qui, et ben en fait, on s'est rendu compte que finalement, ça n'a pas résolu les problèmes, les services n'ont pas mieux fonctionné, et qu'on a dépensé plus d'argent.
Mais
après
on
a fait beaucoup de délégations de services publics aussi.
La mauvaise politique, c'est quoi? C'est de faire des économies. La mauvaise politique, elle est de quoi? C'est de faire des économies pendant 10 ans et de se rendre compte un jour,
on a fait
trop d'économies, on met encore plus d'argent que
Thomas,
ce qu'on avait
déjà
géré.
On a multiplié les postes administratifs. On s'est aperçu au moment du Covid, par rapport à nos voisins allemands, que nous, on avait quasiment plus d'administratifs que de soignants. Et en Allemagne, c'est l'inverse. L'éducation nationale.
Qui a voulu que les directeurs
on maltraite les gens sur le terrain, mais en revanche, on s'aperçoit que les rectorats sont plein fonctionnaires.
Vous vous rendez compte ce que tu es en train de dire? Les Français se trouvent mal payés. Et là, on est en train de tous expliquer que l'entreprise n'y est pour rien, que c'est juste une mauvaise gestion des cotisations qu'on nous prélève. Et donc, ça devient quand même inquiétant parce qu'on est en train de créer un rapport de force entre le monde des salariés et le monde des dirigeants, alors qu'il n'y a pas, de problème. Le dirigeant, il paye ce qu'il faut. C'est derrière que ça ne va pas.
C'est ça.
Ouais, mais il y a un point que ni les uns ni les autres vous n'avez abordé pour le moment, c'est le changement de notre société aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on est passé à une société de consommation, de loisirs, d'offres permanentes.
C'est ça. Oui.
Et là où avant, comme tu le disais Zora, il y avait des salaires qui étaient faibles, et finalement ton salaire il servait à quoi? Tu avais le panier de la ménagère,
c'est tout.
Tu faisais tes courses, pas forcément les week-ends, tu payais ton loyer ou tu payais ton remboursement de maison et tu partais en vacances, vraiment il n'y a pas autant de vacances, tu partais surtout le gros bloc de l'été et puis il y avait Noël et puis entre-temps tu te débrouillais.
Mais les gens partaient et partaient bien,
mais on vivait plus modestement et on vivait en fonction vraiment de nos revenus.
De sollicitations.
Et voilà, et aujourd'hui on est sollicité de toutes parts, donc en fait déjà tu payes cher toutes tes charges du quotidien.
Il y en a plus.
Et qui sont plus importants.
À l'époque, il n'y avait pas les abonnements, téléphonie.
Et puis là, aujourd'hui, tu payes tes abonnements pour aller faire ci, faire ça, pour sortir le week-end. Les enfants, ils veulent le portable, etc.
Ouais,
il y a ça aussi qui a changé. Tu dis, mais putain, on est le 12. J'ai pas commencé encore à vivre, que j'ai déjà tout claqué.
Et tu baves. Et tu vois des choses et tu baves.
Séverine, bonjour.
Et donc, tu as créé de la frustration.
Oui, bonjour Séverine. Alors, est-ce que les Français ont raison de se plaindre sur les salaires?
Alors, je ne sais pas si c'est sur les salaires, mais en tout cas, c'est sûr que les salaires ne suffisent plus pour vivre.
Voilà, c'est ça.
Ah bah, allez-y, expliquez-nous alors.
Alors, écoutez, moi, ça fait maintenant 30 ans que je vis en France. J'ai passé à peu près tous les statuts au niveau du salariat, c'est-à-dire que j'ai été intérimaire, j'ai été en CDD, j'ai été en CDI, j'ai été en saisonnière, enfin, j'ai tout fait. J'ai fait des tas de métiers, j'ai été cadre, j'ai été vendeuse, enfin, bon, bref, j'ai fait beaucoup de choses. Et je me suis aperçue au fil des années que même si je gagnais de plus en plus, il me restait de moins en moins à la fin du mois. Donc, tout a augmenté, les assurances maison, les assurances voiture, les loyers. Enfin, on s'en sort plus, quoi, au bout d'un moment. Et pourtant, je vous dis, je suis mariée, avec mon mari est cadre, mais on s'en sort plus, en fait.
Vous habitez de quel côté, que Séverine?
Je suis en Bretagne depuis 6 ans. J'ai passé 20 ans sur la Côte d'Azur et 2 ans en Haute-Marne.
D'accord. Donc déjà, le changement géographique, vous avez moins de charges locales en plus, normalement, les loyers et tout ça, non?
Eh bien alors écoutez, quand je suis arrivée à Vannes il y a 6 ans, les loyers étaient corrects. Depuis le Covid, les loyers ont triplé.
Ben oui.
Voilà.
Triplé,
la vache.
Les locations de maison, moi quand je suis arrivée dans la région, une petite maison, ça coûtait dans les 600-700 euros. Maintenant, c'est 1200-1500 euros.
Oh là là là.
Et Johnny, tu avais une question.
Oui, je voulais savoir, en fin de compte, est-ce que vous avez pris conscience, effectivement, en 30 ans, que votre mode de vie a pu changer également?
Alors, j'essaie de pas trop le changer, mais il y a quand même des choses que j'ai fait, enfin, que j'ai un peu sacrifié. Comment vous dire? En début, quand j'étais sur la Côte d'Azur, c'est pareil. Quand je suis arrivée sur la Côte d'Azur, l'immobilier était correct. On pouvait se loger facilement. J'avais 20 ans, j'ai rencontré mon mari. On s'est dit, bon, on travaille pendant 5 ans et après, on essaye d'acheter quelque chose. Sauf que dans les 5 ans qui se sont passés, le prix de l'immobilier a explosé. Donc, un appartement qui devait valoir, on va dire, peut-être 100 ou 200 000 euros, il est passé à 500 000.
Donc, vous étiez où sur la côte?
J'étais à Joint-les-Pins.
Effectivement.
Ouais, mais c'est le problème de l'immobilier.
Ouais, et là, aujourd'hui, vous êtes propriétaire ou locataire?
Je suis toujours locataire.
D'accord. Et vous avez vu les loyers multipliés par 3 du côté de Vannes. Vous avez des enfants?
Non, j'ai pas d'enfants.
D'accord.
Mais c'est pour ça qu'on était venu aussi en Bretagne, c'est pour avoir justement, par rapport à nos salaires, une meilleure qualité de vie.
D'accord.
Mais la Bretagne, ça monte.
Et vous gagnez combien, voilà. Séverine? Vous faites quoi dans
même
la vie?
Dans les campagnes en Bretagne.
Alors, à l'heure actuelle, je suis vendeuse dans un magasin, je suis en CDI partiel, oui. Donc je suis à peu près à 800 euros par mois.
Ah oui,
en partiel.
Parce que de toute façon, mon employeur ne prend que des partiels. D'accord. Parce qu'il est, sponsorisé quand il prend des...
Alors, l'État. Ah, il est aidé...
Ben oui.
Allez, l'État incite au travail partiel. Oui, ça aussi, effet pervers.
Séverine, je vous remercie de votre exemple. Vous aussi, je vous souhaite une bonne journée du côté de la Bretagne. À bientôt dans
beaucoup.
Les GG. À bientôt dans les grandes gueules. Alors, on va regarder. Les Français ont-ils raison de se
tenir? Non, c'est pas possible sur une question pareille.
Non, t'as peut-être même perdu des points, d'ailleurs.
Je pense.
T'as peut-être énervé.
Il a gagné un point.
Ouais, 81-19, 80%. Oui, on a raison de se plaindre.
C'était ingagnable ce match.
On se retrouve demain. Qui sera là demain? Stéphane Manigold, chef d'entreprise, restaurateur, l'avocate Marianne Soubré, le professeur d'histoire géographique Kevin Bossuet. Bonjour Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG.
C'est que tu as rendez-vous avec nous jeudi prochain.
Je sais.
Tu te prépares pour jeudi
avec
prochain?
Kevin, avec moi et Zora.
Tu te prépares?
Je vais vous laminer.
Oh. On est prêt.
Bah écoutez, ça dépend le sujet.
Même pas peur.
Vous devriez.
Tu seras peut-être dans la même équipe qu'Estelle pour le débat.
On va parler des atteintes à la laïcité. Nous, dans Estelle Midi, plus de 1000 cas d'atteintes à la laïcité ces deux derniers mois dans les établissements scolaires. Est-ce qu'on doit exclure les élèves qui portent atteinte aux valeurs de la République? On en parle dans un instant et on vous attend au 32-16. La multiplication des règlements de compte et des agressions, notamment dans les villes moyennes, sommes-nous de plus en plus violents? Et puis enfin, un excès de vitesse qui a coûté 121 000 euros à un conducteur en Finlande. Est-ce qu'il faudrait fixer le montant des amendes en fonction des revenus des automobilistes? Ça, on en parle à partir de 14h dans Estelle Midi. Et puis attendez, scandale en Bretagne.
Non.
Une quarantaine de menhirs détruits pour faire quoi? Un magasin de bricolage.
Quelle
scandale
honte.
Absolu,
quelle
midi
honte.
Et demi.
Quelle honte.
Quelle honte. Quelle honte.
Que fait Astérix?
Quoi?
Que fait Astérix?
Il n'y a pas eu de potion là, manifestement.
Et Obélix, surtout les menhirs. Allez, ouais. Venez débattre avec Estelle et on se retrouve. T'as aimé
moi,
ça?
Je
viens,
ce
trait d'esprit.
Il y a eu un blanc. Hein.
Allez, on se retrouve demain.
Hésitation.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.